Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, un podcast dédié cette semaine au petit événement quand même de ce... Non, gros événement, à l'événement gargantuesque de ce début d'année, 24 janvier, marque effectivement la sortie eh bien, du nouveau Resident Evil, Resident Evil 7 Biohazard. Vous avez déjà pu lire le test sur Gameblog, c'est Carole qui s'en est chargée. Elle lui a mis une super note, un 9 sur 10, n'est-ce pas Carole?
Un super 9 sur 10.
Enchantée.
J'ai été enchantée par ce 7ème opus et je vais vous raconter pourquoi.
Très bien, avec voilà. Nous il y a aussi Romain et Julien.
Bonjour.
Nous avons tous eu l'occasion d'y jouer. Nous sommes plusieurs à l'avoir terminé dans l'affaire. Et nous allons justement revenir un petit peu sur tout ce qui concerne ce jeu qui quand même récolte d'assez bonnes critiques hein, un peu partout dans le monde. Il se retrouve avec un Metacritic de 86 en général. Bon, après Metacritic,
c'est bien mieux que le précédent opus de Resident Evil, par
exemple. Oui, alors, précédent opus.
C'est d'autant plus impressionnant que c'est un pari super risqué.
Oui, ça on en parlera tout à l'heure. On va faire un petit,
menu bien détaillé. Plusieurs mois, quand même. Il y avait beaucoup d'inquiétudes.
Bah oui, moi le premier, quand la première démo est arrivée, mais après voilà, tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Quand le démo est sorti, ça n'était pas exactement ce qu'on a eu avec le jeu final. On va survoler un peu tout ce qui fait ce Resident Evil, à savoir est-ce que c'est vraiment un Resident Evil ou est-ce que c'est juste un nouveau jeu d'horreur à la Outlast ou Alien Isolation. On va parler de la réalisation, évidemment. On va parler de l'action, on va parler de la vue subjective. On finira avec la VR parce que c'est aussi un élément qui peut être très important dans l'acte d'achat de Resident Evil sur PlayStation 4. Pour l'instant, ça n'est disponible que sur PlayStation 4 pour le PlayStation VR. Ça arrivera plus tard sur PC, mais pour l'instant, c'est uniquement ça.
Et puis peut-être qu'on... Ils n'ont pas dit un an d'exclusivité sur le...
C'était quelques mois, oui.
Pour moi, c'était un an.
D'exclusivité VR pour le PlayStation VR.
Je crois avoir vu ça aussi.
Donc, un an, autant dire, c'est quand même une éternité.
C'est pas mal.
C'est maintenant.
Bah, à la limite, quand ça sortira dans un an sur Switch, on sera content, non? Bon, bref.
On verra ça, a priori.
Et tout ça, ce sera avant évidemment de faire un petit point sur la série en elle-même et de savoir ce que nous réserve l'avenir, parce qu'il y a des choses qui apparaissent au fur et à mesure là, des journées qui passent, genre par exemple des petites vidéos de fans de Resident Evil Rebirth.
Non mais
par
attends,
exemple.
On peut pas dire ça, c'est mon plus gros choc émotionnel vidéoludique depuis des décennies.
Mais tu peux pas y jouer, c'est un fantasme. C'est hyper séduisant.
Absolument,
pour
je
le,
pensais
pour
pas qu'on pouvait faire ça. C'est Rebirth, ah bah tiens, Poufy est en train de nous le mettre si vous êtes premium, c'est Rebirth. Avec la qualité visuelle de Rebirth qui encore aujourd'hui est hallucinante, mais en VR, et c'est un fan qui l'a fait. Donc tu te dis qu'une équipe entière de chez Capcom, enfin je veux dire, c'est pas possible
enfin, ça qu'il
fasse
le
pas
qu'il a mis
aussi
ans, hein.
Bien. Et c'est ultra concluant de ce qu'on en voit. Et comme nous, on a joué à Resident Evil 7 en VR et qu'on sait que ça marche très bien. Oh, mais j'en peux plus, quoi.
T'imagines essayer d'éviter les chiens. Éviter les chiens dans le couloir en VR comme ça.
Bah,
on
juste
en reparlera
que...
tout à l'heure.
On en parle tout à l'heure.
Capcom vient de d'acte, enfin c'est pas eux, mais en gros, si on a acté le fait qu'ils peuvent te les ressortir tous et qu'on va les racheter.
Parce que franchement,
ça donne trop envie.
En tout cas, on espère que ça aura un peu, comment dire, donné quelques idées à Capcom là, parce que c'est vrai que
c'est
juste incroyable.
Comme tu l'as jamais vu, mais j'en rêvais.
Ça claque.
Non, mais c'est incroyable. Ouais.
On en parlera tout à l'heure.
T'imagines Resident Evil 2
Il y avait le premier Resident Evil, il y avait des phases sur la version DS, il y avait des phases en
VR.
Mais ça n'a rien à voir.
Attends, c'est génial.
Oui, mais c'est parce que là, c'est totalement la qualité visuelle de Rebirth, mais en réalité virtuelle.
Voilà,
quoi.
En réalité virtuelle.
Bon, on en reparle tout
en
à l'heure quand on va aborder un petit peu la suite. Alors, Carole, tu lui as mis 9.
Hashtag la passion.
Tu trouves que c'est un super jeu.
Oui, je trouve que c'est un super jeu, un vrai survival horror et surtout un vrai Resident Evil.
Alors voilà, justement, c'est la première question que j'allais poser. Est-ce que c'est avant tout un Resident Evil ou avant tout un survival horror comme on en voit aujourd'hui popper dans tous les coins?
Alors c'est un vrai Resident Evil, pour plein de raisons évidentes. D'abord, c'est que tous les codes de la série sont de retour dans cet épisode.
Mais alors
épisode.
De la série, tu comprends
des
aussi le 4, 5, 6
des
ou...
premiers épisodes. Bah, pour moi, le 4 fait partie des meilleurs. Hein. Moi, c'est à partir...
Oui, mais le 4, c'est le tournant action.
Voilà. Oui, mais un virage action qui est pris de manière, comment dire, très subtile. Pour moi, on reste dans l'ADN de Resident Evil dans l'épisode 4. Donc, ça reste encore pour moi un des meilleurs épisodes.
Hein, mais...
Pour moi, c'est à partir du 5 que le virage action a été trop radical. On s'est totalement éloigné de l'identité de Resident Evil. Donc, pour
surtout
moi,
le 6, quoi.
Surtout le 6.
Moi,
vas-y, je t'en prie.
Moi, pour le coup, 4 et 5, je l'ai place, je les place en duo. Ils sont très similaires en termes de fonctionnement et d'utilisation de l'inventaire et de gameplay, etc.
Mais moins
le 7, Non.
Mais moins en termes de créativité.
Non.
L'ambiance, ça n'a rien à voir. Mais Resident 4 reste quand même un jeu d'ambiance, même si on a pris un virage action, alors que Resident 5, c'est totalement un jeu d'action.
Ça dépend des passages. Enfin, bon, moi, je fais partie des défenseurs du 5.
Oui,
donc,
oui, je sais.
Pour le coup, le 7, je le place bien plus près de la première trilogie et de Code Veronica que les épisodes
oui,
les plus récents.
C'est vrai que si on doit le comparer à un épisode de Resident Evil, ce serait le Rebirth, forcément, pour plein de raisons évidentes. D'abord, le manoir Baker, qu'on peut comparer au manoir Spencer, même s'il n'en a pas l'élégance, mais tous les codes de cette maison, elle a vraiment tous les codes. Elle aurait pu être construite par George Trevor, très, très facilement. D'ailleurs, il y a quelques clins d'œil qu'on peut trouver dans le manoir Baker qui font référence à Trevor, qui est l'architecte du manoir Spencer. Et voilà, on a des passages secrets, on a des énigmes à base de têtes de chien, enfin d'artefacts, des clés emblèmes, etc. Donc tout un tas de mécanismes un peu fous qui font qu'on se retrouve vraiment dans une ambiance Resident Evil avec un rythme qui est vraiment propice à l'exploration, un aspect important pour moi de Resident Evil.
Mais c'est pas de la ligne droite, hein.
On a
vraiment de l'exploration, et sans parler du fait qu'il y ait tous les items qu'on doit ramasser là, qu'il y en a certains qui
Exactement.
Sont cachés, mais on peut pour les trouver,
voilà.
On est obligé d'utiliser.
D'ailleurs, ça c'est bien foutu, c'est dans les menus, on peut désactiver aussi pas mal de choses, dont
l'interface
qui permet, qui met en, pas en surbrillance les objets, mais qui te donne un petit curseur pour valider, quoi, et du coup qui te permet de les voir quand même un peu plus si tu te rapproches d'eux. Si tu supprimes totalement ça, là faut y aller, là faut vraiment bien chercher.
Il faut chercher. Mais c'est le but aussi d'un Resident Evil, pour moi, regarder partout, explorer, prendre le temps de s'immerger. On est vraiment de retour dans un jeu d'ambiance avec les fameuses pièces à moi, comme je les appelle, mais c'est vrai,
les zones de repos,
voilà,
avec une petite musique apaisante,
le retour des coffres, les coffres, ces fameux coffres liés entre eux qui permettent de stocker son matos, et donc d'aider à l'aspect gestion.
Moi, sincèrement, c'est tout bête, hein, mais quel bonheur quand je suis tombé dans la première salle de sauvegarde,
d'en
trouver face à ce coffre et cette musique qui se déclenche, parce que en termes de musique, le jeu est très très discret. Il y a des passages où il n'y a pas de musique. Il y a des moments où ça monte un peu pour laisser entendre qu'il va se passer un truc, mais sinon c'est très calme. Et cette musique qui se déclenche dès que tu rentres dans la salle de sauvegarde, là tout de suite j'étais dedans à fond. Et en termes de manière de jouer, enfin ma manière de jouer, j'ai joué à ce Resident 7 comme je jouais à Resident 1, 2 et 3, avec des allers-retours ultra fréquents vers les salles de sauvegarde,
parce que ça,
pour bien choisir mon inventaire.
T'as les chocottes de ce qui va se passer par la suite.
Et t'es limité en objets, t'es limité en espace d'inventaire, et t'es limité en munitions, etc.
Comme dans les premiers Resident.
Moi, j'ai toujours, dans les Resident, j'ai les trois premiers, les Code Veronica, j'ai toujours été très prudent dans ma manière de jouer. Je rushais pas, je faisais bien attention d'avoir fait mes mélanges d'herbes, d'avoir préparé mes munitions, d'avoir classé mes armes, etc.
C'est comme ça
et
qu'il
donc
faut
là,
jouer.
J'ai joué à celui-là comme je jouais aux anciens. Mais ma chère tante qui était à côté de moi pendant tout le jeu, parce que pour le coup, elle a été assez captivée par l'histoire et par l'ambiance, donc elle m'a regardé jouer, et des fois je m'excusais auprès d'elle, je disais je suis désolé, je vais retourner à la salle de sauvegarde pour classer mes objets.
Mais c'est ça qui est incroyable.
Et des fois elle me conseillait, elle me disait ah, tu ferais mieux de prendre cette arme là parce que t'as tant de munitions, et on sait pas, vu que t'as croisé tel personnage récemment, tu vas peut-être devoir te battre contre lui ou elle, etc. Donc
et d'ailleurs, pour rebondir sur les munitions et la gestion de l'inventaire, on a un aspect qu'on avait eu dans Resident Evil 3, dans Nemesis, c'est le fait de pouvoir fabriquer ses propres munitions.
Absolument.
Dans Resident 3, on pouvait mélanger les poudres, poudre A, poudre B, et faire différentes munitions selon les mélanges. Et là, on y revient, on va pouvoir, grâce à différents objets qu'on va ramasser au gré de sa progression, faire des munitions, des objets de soins, etc. Et j'ai trouvé que ça rajoutait un petit cachet à l'expérience. Et puis tu disais que ta chère et tendre avait été charmée par le scénario, la narration. Je trouve qu'on a vraiment un scénario intéressant avec des personnages qui ont du relief, notamment la famille Baker, parce que beaucoup de gens se plaignent du bestiaire qui est pas très élaboré. La famille Baker, elle est quand même incroyable. Jack Baker, pour moi, il est autant charismatique qu'un liqueur.
Dans une catégorie très
différente.
Mais qu'un
Lord Sadler, par exemple. Et on a.
Faut dire qu'il est omniprésent, hein, Jack Baker,
donc
qui est le père de
Némésis. C'est Némésis.
Et il y a une couche qu'on a avec la famille Baker, et je peux pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais il y a une couche avec ces personnages là qu'on a de mémoire jamais eu vraiment avec d'autres ennemis de dans la saga Resident. Donc si à la fin du podcast on fait une petite séquence spoiler,
non,
on a besoin, il y a des choses, il y a des
on fera une émission séparée,
fera une émission dédiée. Si vous êtes nombreux à demander dans le forum, on fera une émission,
mais oui, il faut
demander dans les commentaires,
full spoiler pour ceux qui veulent,
pour Romain et moi.
Mais en tout cas, ils sont les Bakers sont très intéressants comme personnage, j'ai trouvé.
Ils ont vraiment du relief et mine de rien, ils font partie du bestiaire. Hein, il faut pas l'oublier. On a Jack,
ça, tu peux le dire.
Voilà, qui est un némésis pour moi avec quand il apparaît, quand il casse le mur au début du jeu, c'est juste incroyable. On a Marguerite qui est très spéciale aussi. On a le fils également. Enfin, je vais pas trop en dire, mais.
Et ce qui est intéressant, c'est que leur gameplay entre guillemets est différent.
Mais oui.
C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est plus de la force brute. C'est très bestial. Il y en a une autre, c'est plus de l'infiltration. L'autre, ça va plus être de la réflexion, etc.
Exactement.
Et donc les approches, en fait, ils apportent des approches différentes en plusieurs temps.
Et là, pour le coup, c'est un peu bizarre, mais ça m'a fait penser. Ah, alors c'est peut-être lié à un membre de l'équipe qui a travaillé pour Kojima Productions, mais les ennemis, enfin les boss de Resident, m'ont fait penser à du Metal Gear, par exemple à ceux de Metal Gear 3, où chaque boss avait une stratégie, un type de combat différent, et fallait adapter sa stratégie en fonction de ces différents boss. Et là, c'est un petit peu, c'est un petit peu la même chose.
Il y a de la stratégie, puis il y a aussi des détails. Moi, je trouve que c'est très intelligent. Le premier combat qu'on fait contre Jack. Dans le garage, je ne vais pas spoiler, hein, même si vous l'avez peut-être montré pendant le live.
On l'a montré, c'est vraiment le début du jeu.
J'ai tourné un petit peu, je me disais mais qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai mal fait, et avant de trouver, il a fallu que je cogite un petit peu avant de me dire c'était ça la solution, d'accord. Mais ça va pour ce combat-là en tout cas, c'est autre chose que du pur combat, même si par la suite malheureusement on en a discuté ensemble, mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus combat et où c'est que ça, et malheureusement la maniabilité elle est pas toujours extraordinaire quand il s'agit de se déplacer et d'essayer de se retourner ensuite, et puis il arrive, et puis toi tu es lent comme un cul, t'essaies de reculer en même temps,
mais après tu peux te retourner rapidement,
mais même en reculant
et après
en reculant ou en strafant, t'es lent, mais comme une vieille, un déambulateur.
Et Ethan est assez lent, mais je trouve que ça. Ils sont pas rapides, hein, les holoformes ou les mycomorphes.
Les mycomorphes.
Mais moi, je les appelle les holoformes parce que c'est vrai que c'est le premier nom qu'on nous avait donné. Ils sont pas très rapides, hein. Ce sont des sortes de hunters, mais moins véloces. On a une version aussi de l'holoforme qui ressemble un peu plus aux Lickers. Mais en général, d'une manière générale, ils sont pas très rapides. Donc, même si Ethan lui-même est pas très rapide, c'est pas gênant, et je trouve qu'en plus ça participe un peu à la, comment dire, à l'ambiance, puisque du coup
ça ajoute de l'oppression, mais par contre tu vois Outlast par exemple, Outlast ça va beaucoup plus vite, Outlast et là je fais une critique au niveau du level design, mais c'est pas une critique affreuse, hein. C'est juste, après je pense que c'est leur parti pris, mais je pense que quand t'arrives devant une table, moi j'estime qu'on pourrait avoir la possibilité de monter dessus, qu'on pourrait aussi je sais pas, il y a des endroits où il y a des espèces de mini mur invisible, genre des herbes un peu hautes, t'as pas le droit d'aller dans l'endroit où il y a un peu de flotte, bon c'est un peu dommage, je sais pas, des endroits que tu puisses escalader un petit peu,
c'est pas ce que je demande,
c'est
à
les limitations de la map en fait.
Surtout, est-ce que tu ferais ça dans la vraie vie?
Bien sûr,
les premiers résidents,
moi je monte sur la table,
je le fais déjà à la rédaction,
ça te sortirait un peu du truc, je trouve.
T'aurais pas envie de faire de bruit,
mais par exemple sur des
passer sous les tables, je veux bien,
oui bah oui, alors ça aurait été bien aussi, ça plus souvent,
mais les trois quarts du temps sous les tables il y a des trucs en fait, mais à la limite ça, je suis d'accord,
ça c'est pas des choses qui m'ont
tu vois, la lourdeur, la lenteur, ça me faisait un peu peur avant de commencer à jouer vraiment, mais après une fois dans le jeu complet et en repensant à la série, finalement ça a toujours été comme ça.
Mais oui,
dans ça Resident, t'as toujours été un peu lent, les ennemis un peu balourds aussi avant de t'attaquer, tu sais, genre un peu lent après une attaque brutale, et ensuite ça ralentit à nouveau, ça a toujours été le rythme de Resident. Donc là ça, c'est un autre élément qui pour moi fait que le jeu est vraiment Resident.
Et vraiment moi ce qui m'a séduit, c'est que clairement, même si dans les images, les vidéos, les trailers que vous avez pu voir, oui vous allez avoir des armes, hein, et pas qu'un couteau, des flingues, des fusils, etc., c'est définitivement, le curseur il est mis mais extrêmement sur l'ambiance plutôt que sur l'action. C'est-à-dire que au final, je sais pas, mais en tout et pour tout dans le jeu, il y a pas tant d'ennemis que ça, il y a pas tant de rencontres que ça, il y a des poches d'ennemis, Ou soudainement il va peut-être en avoir 3, 4,
ouais, mais
5.
Ça va, c'est pas Revelations. C'est bon, ah c'est, bah non, pas, c'est pas des zones non, où t'as 20 000 loups
et
ça.
Et du coup,
ouais,
chaque
rencontre
devient un temps fort. Et il y a plein de moments où vous allez marcher juste et entendre des bruits. Et on est en début de podcast, si vous n'y avez pas encore joué ou même si vous êtes en pleine partie, je ne saurais trop vous conseiller les conditions de jeu. Pour vraiment puiser, tirer parti la quintessence de jeu, il faut y jouer dans des conditions particulières. Alors oui, ça fait peur, mais faites-le. Jouez-y dans le noir. Et jouez-y au casque. Là, je ne parle même pas au casque. Absolument, de la réalité virtuelle, ouais, mais au casque. Parce que au-delà du visuel, le son est extrêmement localisé en 3D. Et il rajoute des petits bruits de pas, touc, 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 des portes, boum, boum, boum. Que même si vous mettez le son fort sur votre télé, ce n'est pas du tout la même chose. Et franchement, le trouillomètre, il passe, mais il est doublé minimum.
Ah bah moi, j'ai des preuves quand... de Julien faisant des bons incroyables dès le début du jeu. Hein. C'était
plus.
Génial.
Mais des fois, tu entends des bruits.
C'était... Oui, oui.
Et en fait, tu te rends compte, donc tu te retournes, enfin, ton personnage se retourne vite. Et en fait, tu te rends compte que c'est toi, en fait, qui est en train de marcher dans la matière visqueuse qu'il y a dans la salle. Et donc, tu as l'impression que c'est un ennemi qui se rapproche. Mm-hmm. Mais tu es tellement en alerte, en permanence, et jamais vraiment tranquille que ça. Mais... t'es dans un état de stress qui est assez élevé quasiment tout le long.
Bah,
quoi.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que dans les premiers Resident, jusqu'au 4, hein, en tenant compte de Code Veronica, bien sûr, on s'est toujours senti constamment en danger. C'est ça aussi un Resident Evil, t'es constamment en danger, même s'il se passe rien. Même s'il n'y a pas d'ennemis dans la pièce, tu sais que t'es en danger. Et ça, on le ressent vraiment dans ce
bien, ouais.
Resident Evil 7, il y a des bruits. L'ambiance sonore, pour moi, est juste parfaite. Alors, effectivement,
ça
manque
un peu de musique.
Ça manque un peu de musique.
Des petits accords de piano, mais qui ne se substituent pas au son d'ambiance,
mais
qui rajoutent une petite toile à la Resident Evil, d'ailleurs.
Tout à fait. Mais il y en a quelques-unes, d'ailleurs, certaines qui m'ont fait penser un peu au moment
moins,
où
ouais,
tu descends au requin, mais c'est vrai qu'il y a des moments où voilà, c'est le silence, tu as des stridulations d'insectes au dehors, le craquement du parquet dans la maison, des portes qui claquent, le vent qui souffle.
Parfois,
moi ça je trouve que c'est encore plus impressionnant.
Parfois ils trichent quand même, moi j'ai repéré quand même, il y a quelques sons qui rebalancent quelques fois où t'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver derrière ou un bruit de pas et machin. En fait il y a rien du tout, c'est juste pour te foutre le trouillomètre à fond. Mais et ça, pour moi, c'est la preuve du retour de Resident Evil, de la preuve du retour du bon jeu d'horreur. C'est un simple couloir, une simple descente d'escalier, et tu fais...
Bon, si j'allais sauvegarder dans la salle d'enfant,
on y va, mais
je
ne
sais pas combien de sauvegardes j'ai fait.
Tu flippes,
avance, c'est écrit dans mes
tout doucement, tout doucement. Et d'ailleurs, en parlant de sauvegardes, mais là, entre guillemets, ce n'est pas vraiment leur faute, même si a priori, on peut faire autrement. Ça, j'ai trouvé ça très dommage. Tu te tapes, en tout cas sur PS4,
oui,
j'ai joué sur
PS4,
tu te tapes le menu de la PS4. Et non pas, tu sais, avant, tu t'arrivais, t'avais de l'imprimante, t'entendais clac, 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 clac,
enfin,
clac,
la machine,
tu restais toujours...
Oui,
la machine à écrire.
L'imprimante, oui, on imprimait pas mal de choses en temps.
Non, mais tu restais dans l'ambiance du jeu. Alors que là, t'es sur le menu, tu sais, design, là, avec les barres PlayStation 4, et
moi,
t'as plus de son. Eh ben, je veux dire, c'est une petite coupure,
mais
un peu dommage.
Effectivement, on peut pas faire autrement, mais dans le mode survie que vous débloquez en fait quand vous terminez le jeu, que ce soit en normal ou en facile, vous allez avoir
des cassettes à retrouver.
Des cassettes, non, mais tu ne peux sauvegarder qu'avec des cassettes qu'il faut mettre dans le magnétophone, et ça rappelle un petit peu les rubans encreurs dans les premiers Resident.
Ça fait partie du challenge.
Ça fait partie du challenge, sachant que de toute façon, dans les trois modes, on a une sauvegarde automatique, mais qui est moins fréquente en mode survie, du coup.
Ouais, c'est sur voilà, des passages bien particuliers, tu as la sauvegarde, ouais, la sauvegarde
voilà,
automatique.
Notamment avant les combats contre des boss, par exemple. Et
totalement,
en général, avant la cinématique, parce que c'est bien de se la retaper si jamais t'as pas compris le truc.
Voilà, exactement. Mais bon, même en mode facile, le jeu n'est pas facile. Honnêtement, moi, j'ai retrouvé cette difficulté, cette exigence, en fait, qu'on avait dans les premiers Resident.
Il y a une catégorie de joueurs qui, dans les jeux d'action, d'une manière générale, ne compte pas ses balles. Tu sais, ils accordent pas trop d'importance à l'histoire. C'est action, on traverse en ligne droite, on tire sur tout ce qui bouge.
Ils ont été bien décontenancés quand ils sont arrivés face aux tyrans dans Resident Evil,
Code Veronica,
Bah là, dans ce jeu-là, tu peux vraiment pas jouer comme ça. C'est pas possible.
Par contre, après chaque boss, j'avais plus rien. J'étais dépouillé de tout ce que j'avais.
Moi, ça a été
une munition.
Ouais, parce que.
Enfin, un moment.
Alors, pas tous les boss, il est vrai. Mais il y en a certains, dont les premiers. En fait, ça sert même à rien de leur tirer dessus, quoi. Faut vraiment composer avec le décor, etc.
Le tout premier, oui. Mais après, par la suite, non,
Le tout premier, mais pas que la première fois. Les X fois.
Je sais pas, il y en a un où j'ai dû.
L'inconvénient de ne pas pouvoir spoiler, on peut pas parler.
Quand on spoil un peu, on peut le dire.
Oui, enfin, on spoile pas beaucoup.
Mais
en gros, oui, il faut qu'on bien regarder aussi les environnements, essayer de voir comment ils réagissent.
Combiner à fond, vous avez une petite subtilité dans le menu qui vous permet. En appuyant sur R1, de basculer sur toutes les combinaisons possibles. Donc, combiner à fond, utiliser votre fluide chimique, vous allez en ramasser du plus ou moins fort, pour pouvoir faire des munitions, des psychostimulants aussi qui vont vous aider pendant un certain laps de temps à mieux voir les objets cachés dans le décor.
Et ce qui était marrant, c'est qu'en plus, ils ont ajouté, alors ça de mémoire, c'était pas dans les précédents, mais un objet de séparation des vous avez fait un mélange, bon, il y en a très peu, hein, j'en ai pas trouvé beaucoup.
Moi, j'en ai trouvé un.
Mais si vous avez fait un mélange et vous dites, mince, j'aurais préféré me faire un objet de soin que des munitions, par exemple, et vous pouvez délier les choses
pour avoir une herbe. Et puis,
c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup.
Ouais. Non, il y en a très peu.
J'en ai trouvé
4.
Ah,
4
ouais, j'ai trouvé 1.
Mais je m'en suis jamais servi.
Mais pour le coup, tu parlais de la non-linéarité tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens pour récupérer les armes, par exemple.
Absolument.
D'un joueur à l'autre, on ne les récupérera pas forcément au même moment. Et pas de la même manière.
Ouais.
Moi, je sais que j'ai réussi à attraper une arme très puissante relativement tôt dans le jeu, qui m'a bien aidé contre un des boss. Et ensuite, plus j'ai avancé, et je suis tombé dans une pièce à un moment où il y avait une indication pour récupérer cette arme, mais j'ai eu l'indication, genre plusieurs heures après avoir récupéré l'arme en question, tu vois.
D'accord.
Ce qui fait que l'arme, je pense que je l'ai eu plus tôt que ce que le jeu avait prévu, et ça m'a bien aidé contre.
Oui, d'ailleurs, parce que on le signale quand même, parce que ces moments-là, justement, où tu récupères des armes, c'est grâce à des clés. Et c'est à nouveau des clés.
Des clés emblèmes.
Avec des emblèmes.
Bah oui. Non, mais voilà. Ça, c'est fantastique. Les clés emblèmes.
C'est le level d'au-dessus d'avant.
Ouais, ouais. Oui, mais
avant, c'était
quand même
un truc en acier et tout. Là, maintenant, c'est un serpent, un corbeau, mais genre réel.
Ouais.
Crevé au mur.
Ah, j'ai trouvé ça génial. Serpent, corbeau,
bien dégueulasse.
Scorpion.
Mais moi, j'ai trouvé que c'était ça aussi un bel hommage. Mais de toute façon, je trouve que dans le jeu. Moi, j'ai voulu féliciter ce jeu. Voilà pourquoi je lui ai mis 9. Je lui ai mis 9 parce que je voulais le féliciter d'avoir su faire renaître une licence qui, pour moi, était morte depuis 2 épisodes, tout en gardant une vraie identité qui lui est propre, en surfant sur
alors,
les codes.
Sans compter les révélations.
Sans compter les révélations, surtout les deux.
Je suis d'accord, alors, attends, parce que révélations, c'était un peu mieux, mais quand même, c'est pas à ce niveau-là.
Révélation 2, je l'avais trouvé incroyable avec ce cher Barry Burton.
Non, mais tu parles d'identité, ok, il y a une identité résidente, il y a la structure d'un résident, vraiment jusqu'au bout.
Et
les énigmes d'un résident, mais en même temps, on peut pas nier qu'il s'est pas inspiré. Il a carrément sucé la moelle comme Outlast, comme Alien Isolation.
Pourquoi alors? Attends,
Amnesia.
Question, pourquoi un jeu? Donc ça veut dire que tout survival horror en vue subjective qui va sortir à partir d'aujourd'hui pompera sur.
Non, je dis pas ça. Je dis juste.
Moi, je trouve qu'il n'y a rien à voir avec Outlast.
Il n'y a rien à voir.
Mais vraiment rien à voir.
En termes de densité,
pour moi,
de personnages.
De densité, de profondeur, de gameplay. Il y en a un où tu runs quasi tout le temps. Tu cours,
mais tu peux pas te défendre dans Outlast de toute façon.
Voilà, là, tu te bats.
T'es une victime.
Il y a peut-être un peu plus de rapport avec Pity. Mais Pity, rappelons quand même que c'est qu'une démo. Et aux dernières nouvelles, c'était pas dit que le jeu soit intégralement à la première personne dans le jeu final. C'était les plans. Plus le fait que pour moi, et c'est peut-être un manque d'ailleurs de ce Resident Evil 7. Si je devais être un peu critique à son sujet, Pity était vraiment beaucoup plus sur le psychologique, sur ce que tu découvrais, etc. Alors que là, pour moi, c'est vraiment Resident. Ça veut dire que oui,
mais
ça fait peur,
t'avances,
mais il y a quand même les fusils à pompe, le lance-grenade, etc. qu'on n'avait pas du tout, en tout cas dans ce qu'on avait vu de Pity. Et il y a moins des trucs genre over mystérieux what the fuck avec la lumière verte jaune rouge.
Non mais non mais disons que ce que je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi
après c'est pas forcément ce que je pense.
Ah ouais, ce que tu dis c'est pas ce que tu penses.
Non, je suis là pour poser des questions.
Mais je trouve vraiment que ce Resident Evil 7 a son identité, tout en rendant la vie pour moi à Resident Evil, à Biohazard. Donc c'est ce que j'ai voulu féliciter avec ce 9, même si le jeu n'est pas parfait, mais je trouve qu'il y a vraiment c'est un vrai Resident Evil et un vrai survival horror. On a un vrai retour à la source
qu'est-ce que Capcom qui nous a quand même donné Resident Evil 1 qui a été un monument, Resident Evil 4 qui a été un monument,
un monument.
Je parle pas des autres mais après je
même
parle de ceux qui ont vraiment marqué des grosses étapes.
Pour moi,
qu'est-ce qu'il
1,
apporte celui-ci,
le 4 et le 7,
et le 7
en termes de qu'est-ce qu'ils apportent à l'industrie. Je vais te dire un truc tout bête, c'est le premier gros, vrai jeu VR, déjà, point, ouais. plus Survival.
Ça, il ne faut pas l'oublier.
C'est-à-dire que Outlast n'est pas en VR et le 2 n'est même pas prévu pour être encore en VR.
Ce qui est bien dommage.
Pity, bah, ouais. tu ne le verras pas. Oh. En gros, bah non. Et donc, ouais, c'est ta première...
Une série blockbuster en plus.
Exactement.
Complètement.
Donc, c'est ta première grande et généreuse et totalement pensée pour, eh bien, ou bien pas, pour la réalité virtuelle. Ça fonctionne du tonnerre de Dieu. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a... Enfin, nous, on n'a pas ressenti de phénomène de nausée.
Du tout.
C'est hormis peut-être la toute première séquence au début de jour. Après, c'est plutôt vraiment joli. C'est vraiment
ça,
beau.
C'est ça, mais...
Je peux te dire qu'en termes d'intensité et d'immersion, c'est pas le haut du panier. C'est quasi parfait. Quoi. Enfin, je veux dire, limite, et je crois que vous en faites partie, on doit se poser la question, est-ce que j'y vais ou pas ? Parce que vraiment, je flippe vraiment. Quoi. Donc ça, bah, c'est un leg à l'histoire du jeu vidéo. Et ce sera Resident Evil 7. Point.
Et mais... un autre... Oui. Pour moi, un truc qui est vraiment fort avec ce jeu, et là, c'est le chapeau à l'équipe, coup de chapeau à l'équipe de développement, c'est qu'ils ont réussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Plumeau, à prendre des idées et des éléments un peu partout. Tu cites les derniers survival horror sortis
oui,
ces dernières années,
les plus populaires,
mais
ouais.
aussi au cinéma d'horreur.
Oui.
Beaucoup, plein de petites thématiques et des petits éléments
aliens
ou même Massacre à la tronçonneuse ou même j'ai trouvé un
la
peu
dernière la maison sur la gauche,
la colline à des yeux
aussi.
Et
la
même The Ring.
Et il y a plein de. Mais ce qui est ultra balèze, c'est que t'as pas l'impression de te retrouver face à un patchwork d'idées prises à droite à gauche. Là, tu joues au jeu de A jusqu'à Z, tu termines, tu dis j'ai joué à Resident Evil.
Bah, à part, moi, il y a un détail qui est lié à un manga et qui est devenu animé très célèbre. Et on en a parlé avec Carole. Je vous le dis pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler le truc. Mais franchement, la relation par rapport à cette œuvre, pour moi, elle est genre, elle m'a frappé immédiatement. Donc, quand j'ai dit je dirais pas tout de suite parce que ce serait vraiment du spoil. Non, ce serait du spoil. J'insiste.
Ah oui, tu me l'avais dit, oui, je pense que ça serait un peu trop.
C'est vraiment trop spoil
en disant le nom du.
Oui, là, je te spoil le tout.
Après, ce que je trouve intéressant aussi dans ce Resident Evil, c'est que justement, il baigne pas dans le. Enfin, il trempe pas dans le fanservice. Ça m'a énormément plu. Ça a été très subtil.
On a
des clins d'œil. Alors. Assez frappant comme le manoir Baker, forcément tu penses au manoir Spencer, mais il y a plein de petits détails disséminés, un tableau
quand
avec
quand t'es fan tu comprends, si t'es pas fan tu passes enfin je veux dire,
on l'a
fou,
vu avec les, voilà.
on l'a fait pendant le live
Darkley,
une coupure de journal signée par une personne en particulier qui renvoie aussi et je pense que t'en es pas encore là Julien, mais tu vas trouver d'autres documents
qui renvoie à Raccoon City, etc.
Sans l'enfoncer, genre sans te mettre la tête dedans, genre regarde ce qu'on fait.
C'est
je vous
disais
un truc, on a pendant
des
années parlé un petit peu de les Japonais sont à la ramasse, etc. Et sur ces dernières générations, et je trouve que parmi les choses qu'on leur reprochait, c'est qu'en plus ils étaient un peu pataux, quoi. C'est-à-dire, ils savaient pas vraiment faire une fin de jeu, c'était un peu pop, pop, pop. Et je trouve qu'entre par exemple la fin de Final Fantasy XV, qui est très courte, là où généralement ils font des trucs, c'est qu'ils s'arrêtent pas et puis c'est un peu genre un peu du verbiage. Là, c'est précis, c'est bien et c'est juste. Et là, on aurait très bien pu attendre de leur part, là ils sortent la grosse artillerie et que je te fais du fan service et en voici pour te rassurer, toi fan, hein,
complètement.
T'as eu peur parce que c'était en vue à la première personne, mais t'inquiète, regarde. Et bah pas du tout. Et je trouve que c'est assez étonnant et
mais c'est
chapeau.
Ça. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il mérite son 9. Le jeu arrive à la fin, tu te dis c'est un vrai Resident Evil. Mais il n'y a pas du tout de fanservice, c'est juste les codes qui ont été placés là, qui sont de retour. Mais des petits détails, même le codex avec le rythme cardiaque, on était passé dans le 5 et le 6 à
des
jauges
de vie, quoi.
Des jauges basiques. Là, on revient à... C'est des petits détails, hein,
et
mais
puis
pour
même
les fans, c'est
pure,
tellement important visuellement.
Sur, sur l'écran, quoi.
À part les munitions en bas à droite,
mais
retirer.
C'est ça, il y a rien.
On peut le retirer,
il
ouais,
y a
etc.
rien du tout. Donc c'est
et c'était ça Resident Evil aussi, je trouve. Et c'était devenu.
Merde, combien il me reste de balles.
Tu repartais dans le menu. Il y a même des petits sons d'ailleurs, certaines énigmes qui rappellent vraiment
les sons de Code
première...
Vero et tout.
Et c'était l'un des marqueurs du fait que le jeu, la série était devenue action. Parce que dans un jeu d'action, tu dois tout de suite savoir combien t'as de vie, tout de suite savoir combien t'as de balles. C'était ces grosses jauges de vie vertes et tout, avec les indications de machin qui pullulaient sur l'écran et qui finalement te sortent un peu de juste l'oppression et regarder. Et là, regarde, on le voit dans les images. Il n'y a rien. Subtilement, il y a juste ton arme quand tu l'as, mais tu peux même la ranger et tout. Et t'es totalement dedans, quoi.
Et les petits soupirs du héros.
Oui, fois, quand la respiration courte.
T'es en train de marcher ou de courir dans un couloir, au bout d'un moment, il fait. Et c'est pas tout le temps, c'est pas.
Un peu comme dans un
c'est
outlet,
d'ailleurs.
Un
ou deux soupirs de temps en temps.
Ah, ouais. Et pour ceux qui nous regardent, il y avait cette vieille pute là. Oh. Ah, dans son fauteuil, là,
elle
te fout mal à l'aise.
C'est pas la plus encombrante, mais je crois que c'est la plus flippante.
Elle est pas encombrante. Non, non, non.
Il y a un plan, un moment où t'arrives. Un moment où tu montes un petit escalier, tu tournes à droite.
Elle est là.
Elle est là dans le truc.
Ça, c'est dégueulasse, Darby, ça.
Suis du regard.
Elle fredonne à un moment même. Hein, elle...
Ah non, j'ai pas entendu.
Cela dit, puisque Romain parlait du héros et de ses petits allaitements, etc.
Et
moi, je trouve tout de même que
Il est pas super lui.
Il aurait pu être un peu plus loquace.
Oui.
Le héros en lui-même,
non, en
le
fait,
personnage,
y a un
est
détail.
Pas très fort quoi.
En fait, on peut dire
c'est
que
c'est pas Chris Redfield.
Non, mais t'arrives
pas,
dans des
on peut dire que le scénar.
Je veux dire, normalement, t'es un mec qui est en plus un peu lambda, tu vois. Putain, tu réagis autrement, quoi. Enfin, je sais pas, tu hurles, tu pousses des cris.
Alors, justement,
tu fais bien de le dire parce que
en matière de scénar, on peut dire que le scénar est beaucoup moins série Z qu'avant, quand même.
Bah,
et même le jeu d'acteur.
Qui est même bon, hein. Les acteurs, ils sont très très bons.
Ils sont fantastiques.
Ils sont complètement creusés.
Le bouseux dérangé, parce que même les accents et les types d'expressions employés, c'est du pur cajun, enfin, du mec de Louisiane.
C'est la famille de Massacre à la tronçonneuse.
La séquence à table, là, machin, là, quand Marguerite, elle pète son cap parce qu'elle est vénère que tu manges pas.
Que tu manges pas des boyaux.
Boyaux et les machins, elle est extraordinaire quoi. Oh putain ça. Et l'autre qui a eu le cas mais qui coupe le bras. Et ben...
Famille de tarés.
Non, mais franchement,
quoi. C'est génial.
Et d'ailleurs, excuse-moi, juste je fais une parenthèse, mais cette première heure et demie, je sais pas, une heure et demie à peu près, elle est grandiose.
Enfin, ah, pour le moi, début
c'est
du jeu est
un des meilleurs lancements
de jeu.
Le
début du jeu te met dans
c'est
le.
C'est d'une intensité du truc, mais tu
c'est
dis,
dégueulasse.
Je suis où quoi. Et ça n'arrête pas. Et à un moment, t'as une espèce de gangbang mental de t'es là, et bon, cette séquence là, bidule, j'ai regardé Carole après, j'ai fait.
Je sais
tu m'as dit
je vais crever bébé.
Non mais j'en pouvais plus quoi, c'était tu t'en prends trop plein la gueule quoi.
Bah, l'important c'est de pas perdre la main en fait hein, au début du jeu.
Oh mon dieu mais ça, c'est... oh je t'aime mon plumeau.
Et de prendre
incroyable.
Son pied aussi
hein, bien pensé à prendre son pied.
Ça je l'ai eu ça.
Ah ça tu l'as eu.
Moi non, j'ai pas eu ça.
Moi j'ai cru que c'était un objet pour une énigme moi en fait et j'arrivais pas à me relever et c'est ma copine qui me fait mais c'est ton pied là qui est devant toi, il faut que tu le récupères.
Mais justement ça sans spoiler, ça fait se poser pas mal de questions sur notre protagoniste quand même.
Absolument, ouais.
Comment c'est un peu bizarre
quand
même.
Ah bah oui, ça fait partie des trucs
Sans spoiler. Julien parlait du caractère du héros, ça c'est une des critiques que j'émettrais au sujet du jeu moi aussi, c'est que vu les situations auxquelles il est confronté, moi à sa place pendant toute la nuit, je hurle jusqu'à ce que j'ai plus de voix.
Oui, mais alors
lui il est là. What the fuck? Et des fois, il fait
oui,
des petits.
Encore,
il fait limite des petites blagues,
j'espère
tu vois.
J'espère que tu vas rester mort.
Mais genre, t'as vu ce que tu viens de vivre? Tu
oui,
rigoles
mais alors,
pas
attendez,
là. Hein.
Attendez,
il y a des dialogues quand même qui sont assez débiles, je suis désolé. Il y a des moments où il parle avec quelqu'un qui sait à peu près ce qui se passe ici.
Oui,
et
oui.
La personne lui fait oui, mais non, je peux pas t'expliquer. Ou quand il rencontre quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être l'aider, hein, il fait donnez-moi un truc plutôt. Il pourrait lui expliquer. Non, il s'explique jamais les choses.
Je suis d'accord avec vous.
Dans plein de films et plein de trucs, c'est un truc
quand t'as 2 minutes. Devant toi, que vous êtes bien, tu sais, il n'y a pas d'urgence, il n'y a personne derrière toi, pourquoi t'en discutes?
Et ben pourquoi
voilà ce qui se passe, moi je suis ici, vous pouvez pas juste ouvrir la fenêtre que je me casse avec vous, s'il vous plaît?
Ou pourquoi dans les teen slashers, quand ils arrivent dans une baraque et qu'ils se font tous attaquer par un meurtrier sanguinaire, pourquoi ils se séparent?
Parce qu'ils sont adolescents.
Ah, on a une bonne idée! Partons chacun dans une pièce.
Parce qu'ils sont ados. Voilà. Alors que là, on joue un adulte.
C'est ce qu'on appelle les tropes.
Dans les premiers résidents, c'était pareil. Parce que, excuse-moi, mais il y avait des scènes, par exemple, Barry Burton, il est dans une maison avec des hunters et des zombies. Il répare les poignées de porte.
Puis se casse après. Hein. Salut
Jill, sans doute. Quand elle est en bas et qu'elle se retourne, ça doit être un vrai professionnel qui a fait ça. Bon, ben je m'en vais.
Oui, mais ça, ça aurait pu être amélioré. Je veux dire, c'est pas une force du jeu.
Et ça nous gênait pas.
Oui, mais c'était il y a 25 ans.
Je crois qu'il y a qu'une fois où je l'ai vu rentrer dans une pièce où c'était un peu glauque et faire une réflexion.
25.
Je veux dire, tout le jeu il est comme ça, mec. Normalement, chaque
oui,
ouverture
pareil,
de porte, tu dois faire.
Dans les premiers résidents, quoi.
Mais ça, c'est les premiers résidents, c'était de la série Z.
Oh, des zombies.
Je veux dire, tu savais quand même que dès l'intro, qui
moi,
était quand même en carton, qui était affreuse, mais qui est culte pour ça d'ailleurs, tu savais déjà que c'était foutu, quoi.
Après, peut-être que je suis pas expert en psychologie, mais est-ce qu'un Pékin lambda. Après avoir été confronté à une horreur intense, et parce que là c'est on va dire 10 heures, 12 heures, tout ça non-stop,
en normal en tout cas.
Est-ce qu'au bout d'un moment tu t'y habitues pas?
J'ai un début de réponse, c'est que ce Pékin lambda qui vit ça, finalement c'est un peu nous, hein, puisque c'est en vue subjective et machin.
Mais
j'arrêtais pas de parler. J'étais là, mais c'est pas possible, non mais machin. Enfin, je veux dire, j'en pouvais plus. À un moment, j'ai besoin d'extérioriser le truc, quoi.
Ah, moi, j'ai fait quelques hauts putains aussi.
Ah bah ouais, il y a des moments où tu fais ah. Et moi, par exemple, dans la séquence, bon, ça a été déjà montré en trailer, etc., mais où il y a Jack avec une bagnole et des flammes, j'avais un rire nerveux, en fait. Parce que le mec en finit tellement pas de crever.
Il me disait, mais c'est n'importe quoi.
Mais c'était pas que je trouvais ça débile. C'est que je faisais, non mais ça s'arrêtera jamais. Lâche-moi, quoi.
La mise en scène de ce passage est géniale.
Non mais Jack pour moi, la véritable star de ce jeu, c'est Jack.
Ah bah franchement. Ah, j'aime beaucoup Lucas en ce qui me concerne. Mais c'est
Lucas.
C'est un Lucas.
D'autant plus que je trouve qu'il a des moments où il est en gros plan. Très expressif,
sans réalité virtuelle.
Il a de très très bonnes
quand
idées.
Il te chante, il te traîne et tout.
D'ailleurs.
En parlant d'idées, tiens, on va parler un peu des idées du jeu qui introduit quand même quelques petits éléments sympathiques. Je vais commencer avec les portes. Parce que c'est tout bête, mais le fait de pouvoir pousser les portes un tout petit peu.
Et de pouvoir regarder les
entrebâillements. Et de pouvoir les refermer.
Ouais. Et de pouvoir les refermer comme tu veux
j'ai
aussi.
J'ai pas arrêté moi, j'ai pas une porte que j'ai ouverte que je n'ai pas refermée.
Ah, pareil.
Ouais, ouais.
Toujours.
Et le pire, c'est que c'est à double tranchant. Parce qu'il y a des moments où tu peux avoir besoin de fuir rapidement. Et si t'as fermé la porte, ça te ralentit. Ça
ah oui, parce qu'il y a,
je voulais
être sûr
d'entendre si la porte s'ouvrait ou se fermait. Et ça d'ailleurs, il me semble pas. En tout cas, là où j'en suis.
Les portes se referment.
Ne spoilez pas, ne réagissez pas si c'est pas le cas. Mais qu'un ennemi. Si, ça m'est arrivé une fois ou deux, mais très très peu de fois où ils ouvrent les portes après, quoi.
C'est
un peu une protection quand même.
C'est rare.
C'est
ouais,
rare.
Les
c'est
ennemis rare. Lambda, entre guillemets, voilà. Ils ouvrent pas les portes.
Ça m'est arrivé une fois ou deux.
Pas lambda.
Ceux qui ont des tronçonneuses ou autres, en général, c'est plus facile pour eux. Voilà.
Mais c'est un bon début de protection quand même.
Mais c'est quand même une bonne façon de remettre les portes qui sont mythiques, cultes dans Resident Evil. C'est quand même le moment du temps de chargement. Le moment où ça fait tu sais pas ce qui va se passer. Derrière, ah merde, il y en a un, merde, qu'est-ce que je fais? Ah, faut que je cours, faut que je repasse la porte. Là, c'est un petit peu une façon de détourner un petit peu l'usage de la porte jusqu'à aujourd'hui.
Mais c'est ça qui
est. Et de la remettre.
Et puis c'est pas ces portes qui s'ouvrent dans les deux sens, j'adore.
Ouais. J'y pensais, en jouant, c'est que le bruit d'une ouverture de porte en bois, c'est un bruit tellement basique. Mais dans notre inconscient, c'est devenu un bruit terrifiant en fait. Ce grincement de porte, là, c'est horrible. Et là, tu t'en prends plein les oreilles à ce niveau-là.
Parce qu'il y a plein de portes, forcément.
Et un autre truc qui est génial, je trouve, c'est que les boss parlent. Moi, à un moment, j'étais en train d'essayer de bidouiller une énigme, de fouiller une pièce. Et là, il y a Jack qui m'a dit un truc et je me suis retourné. Il était à côté de moi. Il a essayé de me foutre un coup de truc là. Et c'est marrant parce que le fait qu'il parle finalement, c'est aussi angoissant que s'il ne parlait pas ou que si c'était un grognement.
Comme ils veulent ce qu'ils disent.
Hein. Ah ben bah Marguerite, je crois que c'est la pire.
Au niveau du ton et du langage, c'est pas du tout du Resident Evil comme on en a connu auparavant.
Tu vaux pas plus qu'un litre de pisse.
Oui, c'est ça. Exact, c'est ça.
Et ce que j'ai aimé, c'est ce qu'on voit. Hein, il me semble là
pour
à l'écran pour les premium. Voilà, c'est le passage lanterne entre guillemets. Donc tu tournes dans une vieille maison avec Marguerite à tes trousses et juste. Justement, j'ai trouvé que cette maison-là, c'était vraiment genre la maison du gardien quoi,
du
dans 1. Le 1.
Ouais, où il y a les plantes.
Ouais.
Là où il y a la plante dans le premier.
Il y a plein de petits. D'ailleurs, il y a un clin d'œil à une des scènes cultes pour moi de Resident Evil 1, ça c'est clair, dans un des couloirs, je n'en dirai pas plus. Mais pour moi, c'est vraiment. Il y a vraiment la même structure. C'est-à-dire que tu as le manoir, entre guillemets, tu as la maison, la vieille maison, avec différents personnages, différentes approches. Comme disait Julien, la Marguerite, on sent qu'il vaut mieux l'éviter. On est plus dans le. Comment dire, dans la stratégie, dans l'infiltration. Voilà.
Et tu vois, ils ont ajouté un. Puisqu'on tu parlais de la, on était au point où on parlait de l'histoire un peu de la
ouais,
narration, etc. Ils ont ajouté un élément qui n'y a jamais eu dans Resident jusqu'à présent, c'est qu'en fait chaque jeu c'était des chapitres qui se suffisaient à eux-mêmes. Tu jouais à Resident 1 et si tu jouais jamais de ta vie à aucun des autres épisodes, c'est pas grave, t'avais le point A et le point Z de l'histoire, c'était tout le cheminement jusqu'à la fin. Là, plus tu avances dans le jeu, plus tu as des éléments, et là je rappelle ce que je disais en live, consulter le plus de documents possible parce que ça c'est très important pour la narration dans son ensemble. Plus tu avances dans le jeu, plus des éléments sont révélés, plus des questions se posent. Et la fin, c'est peut-être la plus grosse question de toutes.
Non, on va pas dire rien de plus.
Tu finis Resident Evil 7.
Presque à la fin, mais je sais pas.
Tu finis Resident Evil 7 en te disant merde. Qu'est-ce qui s'est passé?
Merde,
on en est où?
C'est quoi ce bordel?
On en est où? Qu'est-ce qui va se passer ensuite?
Ça, on va y revenir tout à l'heure quand on va évoquer la suite.
Et là, là.
Non, mais Julien, t'inquiète, tout va bien.
Tu
termines Resident 7 sur un. Sur une question, sur une interrogation.
Une question. C'est une bonne question.
L'autre bonne idée, à mon sens, c'est l'intégration des cassettes vidéo.
Je suis tellement qui ont deux fonctions,
on va dire. La première, évidemment, c'est d'explorer l'histoire de quelqu'un d'autre qui a eu la bonne idée d'avoir une caméra sur lui à ce moment-là.
Ça,
Dieu merci.
Les Google Glass, hein, tous, hein, on les connaît, ceux qui ont des Google Glass.
Non, mais après, à chaque fois, ça
justifie.
C'est toujours expliqué. Mm-hmm. Donc, de ce côté-là, je passais plus une blague qu'autre chose.
Puis il y a un certain cachet, parce qu'on a une vie de visu, ça fait très, très cassette vidéo, c'est pas très propre. Voilà, il y a un grain.
J'aime bien d'ailleurs, je trouve ça réchauffe l'image.
Mm-hmm. Bah, ça tombe bien parce que dans les prochains DLC, il y aura aussi des cassettes. Il y aura deux cassettes pour vidéo interdite volume 1 et vidéo interdite volume 2. Ils auront chacun un mode de jeu supplémentaire et chacun deux cassettes supplémentaires pour explorer d'autres histoires.
On vous teste ça le plus rapidement possible.
À mon avis,
d'ailleurs,
ça va être lié avec... non, je vais rien dire parce que je vais encore spoiler.
Non, dis pas des choses. Dis pas des choses.
Et donc, les cassettes vidéo qui ont donc cette fonction narrative.
Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai trouvé 4 ou 5.
Moi, j'en ai eu 4.
Non, il y en a moins que ça.
J'en ai eu 4, il me semble 3 ou 4.
4 ou 5, je dirais. Bon, je crois que c'est 4 de mon côté, mais je suis pas sûr.
On a un trophée quand on les a toutes, c'est
moi
ça.
Moi, je les ai toutes eues.
Moi, je crois que je les ai toutes eues aussi.
Je crois aussi. Il y en a 4 max, je crois.
Bah, ça doit être ça.
Ouais.
Bref, fonction narrative, mais aussi fonction de jeu. Parce que dans ces cassettes peuvent se cacher des éléments qui vont vous aider par la suite.
C'est exactement ça, et j'ai trouvé ça. Je me permets juste, j'ai trouvé ça vraiment très très intelligent parce que parce que vous n'êtes pas obligé de les faire ces cassettes, c'est vraiment optionnel. Moi, je conseille vraiment de les faire.
Ah oui, trouvez-les.
Je crois qu'on est 3 à vous conseiller, 4 même avec Julien, même si t'as pas fini le jeu, à conseiller de les faire parce que déjà ça rajoute de la durée de vie et ça vous fait effectivement découvrir des lieux que vous connaissez pas encore et donc de trouver des choses que vous auriez peut-être pas trouvées si vous avez pas fait les cassettes, mais vous pouvez en sortir de ces cassettes hein, si vous vous en sortez pas, parce qu'il y en a une notamment qui m'a donné du fil à retordre et moi j'en suis sortie avant, ce qui fait que j'ai été obligée, entre guillemets sans spoiler, d'y passer pour réussir à avancer.
Ouais.
Et ça, on en avait parlé la dernière fois. Donc, je trouve que c'est hyper intelligent, quoi.
C'est bizarre de le décrire comme ça, mais finalement, ces cassettes VHS, ce sont des solus jouables.
Oui.
Absolument, oui.
C'est un peu bizarre parce que ça va te donner des indices pour la suite de l'aventure, mais il n'y a pas de tricherie parce que la solution, c'est toi qui dois la trouver. Donc,
exactement.
Je pense que c'est du jamais vu dans le jeu vidéo, ce système-là, et c'est super malin et super bien intégré à l'ensemble.
Et surtout, ils peuvent décliner un certain nombre de cassettes, je pense, largement, donc faire plein de DLC, comme ils en ont envie, parce qu'il y a des possibilités innombrables avec.
Ouais, il y a beaucoup de possibilités, mais moi j'avoue maintenant, plus que de vivre de nouvelles cassettes sur la famille Baker et leur passé, j'ai surtout envie de savoir ce qui se passe après.
Oui, moi aussi.
C'est vrai, vous voulez qu'on en parle parce que c'est vrai que on spoile rien, Julien. Non, je te promets,
Julien, je le regarde jouer, je dis un mot, c'est du spoil.
Ah bon ?
Oui, j'ai pas le droit de parler.
T'as pas ton micro, Julien.
Oui, mais parce que derrière tu réfléchis.
Poufy vient boucher ses oreilles.
Je comprends qu'il veuille se préserver. Il a attendu longtemps. C'est Resident Evil.
Par exemple, il y avait un truc que t'avais dit, mais qui, dans l'absolu, je veux dire, on peut pas du tout comprendre machin, et ça m'avait mis sur une fausse piste.
Je sais ce dont tu parles, là où on est resté.
Voilà,
un moment hier,
complètement sur une fausse piste.
Alors
que t'aurais rien dit, et ben je serais pas parti psychologiquement là-dessus. Quoi.
Finis le jeu vite et on fera la vidéo spoiler parce que même toi, je pense que t'auras envie d'en parler aussi.
Tu vas vraiment avoir envie d'en parler.
On reste sur une grosse question à la fin.
Mais
évidemment, on reste sur des grosses questions.
Mais j'ai
à
des théories, j'ai tellement de théories.
Non, mais c'est juste, on se dit juste ça, donc on imagine que.
On a plein de théories.
Rendez-vous dans quelques jours sur Gameloy, il y aura une vidéo spéciale.
Que Capcom a déjà dans ses cartons l'idée de faire une nouvelle trilogie en gros avec ça. Oui ou non ?
Bah oui, certainement.
Non, c'est pas du spoil, hein, je te promets.
Complètement.
Bah non, mais on dit juste un truc qu'ils ont déjà expliqué.
Ils ont déjà
dit qu'ils allaient faire.
Moi, je n'ai pas regardé les trailers.
Ça n'a rien à voir avec un trailer.
Là, pour moi, les trailers, c'est du spoil massif, quoi. Je veux dire, moi, honnêtement, je vais plutôt vous faire. J'ai quelque chose à vous dire sur arrêtez de regarder les bandes annonces.
C'est pas faux. Certaines bandes annonces.
Bah, si, excuse-moi. Les trailers que j'ai vus là,
ça spoil pas mal.
Ouais, mais laisse tomber comment ça se spoil.
Ce qu'on disait, c'est
que t'as pas le contexte.
Oui, mais quand même, tu sais qu'il y a cette scène qui arrive. Alors quand est-ce qu'elle arrive, machin.
Jack, tu passes au travers du mur. Moi, j'avais vu la bande annonce, mais quand ça m'est arrivé dans le jeu, je m'y attendais pas.
Mais moi, je m'y attendais. Enfin, je l'avais pas vu, donc je le savais neutre. Et c'était comme des Uncharted et tout. Moi, j'ai une mémoire très photoréaliste.
Oui, elle est.
Je suis nul, je retiens pas bien à l'oral, Mais j'aurais dit tiens, mais genre millimétré au visuel. Et donc bah, le couloir, si je l'avais vu, je l'aurais reconnu.
Ouais, mais t'y passes plusieurs fois, tu sais pas quand il va faire
ça.
Ah
non, c'est la première fois où ça se passe. Mm. Ce couloir en question.
Bon, toujours est-il donc, bon, que...
En tout cas, très bonne idée les VHS, effectivement.
Voilà, voilà. C'est bien. Bon,
ça, très bien. Et il y aura une VHS. Suite, c'est obligé. Mais encore faut-il que cette prise de risque de la part de Capcom soit récompensée, parce que c'est quand même une prise de risque, on peut le dire.
Totalement.
Passer en vue subjective pour cet épisode, tout en sachant que le marché japonais n'est pas forcément friand de ce qui est en vue subjective, c'est pas forcément.
Mais tu veux que je te dise un truc,
c'est pas le même rythme que ce que les Japonais
obligé. Ça veut dire que je pense qu'on ne peut plus faire peur aujourd'hui
à la troisième personne.
À la troisième personne. C'est-à-dire que moi, le dernier survival que j'ai beaucoup aimé,
Dead Space.
Non, c'est Evil Within.
C'est Evil Within, voilà. Mmh. Oh. Mais j'ai pas aimé moi, parce que ça me faisait peur. Tu vois, ça m'a pas fait peur.
Non, bah non, c'est pas peur, c'est rigolo.
Alors
un
ça
jeu
fait dit Camille, etc.
C'est un jeu comique.
Mais tu peux plus faire peur, tu vois. Le coup des chiens qui sautent, bon, à la limite, peut-être, genre, ah. Alors qu'à la première personne. Oh, tu repars dans un délire, mais total quoi. Mais,
ouais. Même si dans The Evil Within, il y avait quand même l'ambiance.
Mais j'ai beaucoup aimé.
Ouais, l'ambiance n'était pas
forte, mais,
non.
C'était oppressant.
Pour moi, c'était un hommage à Resident 4, The Evil Within. Mais on était
Resident Evil
plus
7,
dans l'action.
À mon sens, fait mille fois plus peur que l'ensemble des Resident Evil du passé additionné.
Mais de
quoi.
Toute façon, si en 2017, Resident Evil n'est pas en vue subjective, ça craint un peu.
Tu vois, par exemple,
c'était obligé.
Resident 4, moi, m'a jamais fait peur.
Ah, moi, si, moi, il m'a oppressé.
Le dernier qui m'a vraiment fait flipper
dans la maison,
c'était Code Veronica.
D'accord, ouais.
C'était Code Veronica. Et là, le fait que ça soit à la vue à la première personne, ça rappelle la peur provoquée par les décors précalculés, les angles de caméra fixes.
Tu ne sais
pas ce qui t'attend au coin du couloir. Alors que quand tu es en vue à la troisième personne dans un environnement en full 3D, avec le mouvement de caméra du stick droit, et bah, tu peux tricher un peu parce qu'en restant immobile et en bidouillant un peu avec la caméra, tu peux essayer de te placer de manière à voir ce qui t'attend au coin du couloir. Là, tu ne peux pas tricher. À moins de longer les murs le plus possible et essayer de te mettre dans un petit axe qui va te permettre de voir... C'est quasiment impossible dans celui-là.
Et
donc
puis,
c'est l'évolution logique du genre. Julien.
Même si désormais, je trouve que Resident 7 est supérieur qualitativement parlant en termes d'expérience globale à Outlast. Outlast a quand même prouvé à quel point.
Mais Outlast, c'est fantastique.
Bah, la peur, c'est du côté de la vue à la première personne, quoi. Je veux dire, Outlast est. Ça reste entre guillemets, et c'est pas péjoratif, mais un plus petit jeu, plus petite envergure, et pourtant ils arrivaient vraiment
au
max. Et là, bah voilà. Donc je veux dire, Resident Evil, s'il veut rester un des grands, un des leaders de la peur, parce que c'est ça quand même l'idée
dans le
jeu
vidéo, c'est le départ,
il faut que tu suives ce truc, quoi, et que tu en mettes une bonne couche en plus. Et cette couche en plus, c'est la réalité virtuelle.
Bah, c'est ce que je disais dans mon test, je le soulignais, pour moi, Outlast c'était le meilleur survival horror à l'heure actuelle. Vraiment, moi j'ai adoré Outlast, mais pour moi Resident Evil 7 fait plus peur et apporte plus de choses. C'est plus dense, effectivement. Il y a un scénario qui apporte énormément de choses avec des personnages qui ont du relief. Mais c'est vrai qu'Outlast ça faisait peur parce qu'on pouvait pas se défendre déjà. Alors que dans Resident Evil, bah, tu peux te défendre. Et ce qui fait quand même la grosse.
Moi, ce qu'il y a un truc que je regarde dans ce Resident, c'est qu'on peut se défendre que vraiment avec ce qu'on nous donne. C'est pas, le mec il arrive vers moi, qu'est-ce que j'ai à apporter je pouvais choper autre chose, tu vois.
Oui.
Tu trouves par exemple des pioches ou des battes sur le chemin, tu pourrais t'en servir. Bah non,
je vais te dire un truc.
Je parle de possibilités, après je te parle pas de Resident Evil, je te parle juste de pourquoi pas.
Je pense que déjà, il y a eu beaucoup de travail à réussir à faire cette transition là. Rassurer les gens aussi. N'oublie pas que comme le jeu est intégralement, au moment où tu le souhaites, jouable en réalité virtuelle ou en normal,
oui,
si tu rajoutes trop de trucs aussi, les gens ils vont être un peu perdus, tu vois. En revanche, je pense que c'est une très... Et j'espère que ça va marcher, parce que vraiment, nous, on vous le recommande chaudement. Si ça marche suffisamment, on peut très bien imaginer qu'ils en fassent... qu'il y ait un nouvel épisode de ce registre-là. Et il va falloir, ça, je suis d'accord, si, en plus, si c'est un 2, on va dire, enfin, une suite d'un prolongement de cette technologie, d'autres éléments. Et là, effectivement, on pourra travailler... Parce que t'aurais été habitué, ça y est. Ok, c'est bon, maintenant, je maîtrise, je connais à la première personne, etc.
Je vais juste terminer sur mon idée. Pour ceux qui se posaient la question, est-ce que ce Resident Evil est un Outlast-like ou un Pity-like, non, pas du tout, puisqu'on se retrouve avec tous les éléments de Resident Evil, c'est-à-dire le fait de pouvoir se défendre, le fait d'avoir des énigmes. Dans Outlast, encore une fois, j'ai adoré, mais il n'y avait pas d'énigmes. On pouvait juste fuir et se cacher. C'était beaucoup moins dense. Les personnages avaient moins de relief.
Avant tout, un Resident Evil.
C'est un
qui est passé à la première personne.
Voilà, avant tout. Donc ça n'est pas du Outlast. En fait, ça n'a rien à voir.
C'est là où le jeu est vraiment impressionnant parce que comme Plumeau, quand l'annonce avait été faite, ça avait fait le double effet Kiss Cool, tu sais. L'annonce Resident Evil 7, ouais, vu à la première personne, hein. Et la première version de la démo, c'est pareil, moi, elle m'avait, m'avait pas trop emballé. Non, après, au fur et à mesure des mises à jour, plus ça avançait, plus je me disais, ah, il y a quand même du potentiel.
Ouais, surtout
là...
Lanterne, en fait. Lanterne était vraiment. Ouais. Là, ouais, c'est, là tu disais, ok, là,
et là
ça peut être
faisant,
sérieux.
En faisant le jeu entier, c'est vraiment. C'est là vraiment le talent de Capcom de, sur ce développement, c'est que c'est vraiment un pur Resident. Mais vraiment, il y a.
Je veux dire un truc de mauviette. Hein,
Flippette.
De flippette. Il y a, avec la touche L1, en fait, on peut se protéger un peu. Bon, ça sert pas énormément.
T'as avancé en te protégeant pendant ton jeu.
En gros,
ça.
Tu mets tes bras devant comme ça. Et, et bah, comme tu sais, dans un film où parfois tu sais, tu mets tes mains comme ça parce que tu veux pas trop voir, moi, parfois, j'ai avancé comme ça. Parce qu'au moins, je me disais, je vois pas trop trop, je me protège, vas-y, avance. Et d'autres fois, j'ai avancé, mais genre avec la manette un peu devant les yeux pour pas avoir trop trop, machin. Ben, je veux dire, avec aucun jeu, j'ai fait ça dans ma vie, quoi.
Ça
te marque, et donc ça me fera des souvenirs. Après, toute la question est de savoir est-ce que j'aurai autant de souvenirs que Resident 1 m'a fait.
Il y a une part de nostalgie.
Je veux dire
avec
aussi, j'avais pas le même âge, on avait
normal.
Pas joué machin. C'est bon,
pas le même âge.
Est-ce
y a
que ce
l'habitude
sera aussi,
aussi
culte? Voilà.
Mais oui, c'est
est-ce
ça.
Que ce sera aussi cultissime? Je
faut,
pense
faut
pas.
Faut mettre un peu
moi
de côté la
mais
nostalgie.
Mais en vrai, je pense que le Julien qui avait 16 ans à l'époque, s'il commençait dans sa vie de joueur, son premier survival, c'est Resident Evil 7.
Il serait en hôpital psychiatrique.
Ouais, je pense. Voilà. Ouais. Et je sais pas si je ouais,
surtout après la première heure, qui est vraiment
putain.
Dégueulasse.
Alors oui. Et alors ça, c'est mon petit bémol parce que pour moi, Resident Evil, c'est pas totalement ça non plus. Je trouve que le jeu a quand même franchi un cap dans le gore et dans le cradingue.
Ah bah oui, mais
qui je trouve est pas obligé non plus.
Bah tu sais.
Attends,
ça,
rappelle-toi
pense...
du premier quand même.
Ouais. Le premier, c'était découpé
en deux.
Ouais, mais c'est pas.
Quand tu rentrais dans les cuisines,
tu pouvais perdre la tête. Tu pouvais perdre la tête.
Mais il y avait une espèce d'élégance globale dans le manoir.
C'était pas une, mais c'était pas une élégance. Ça, c'est
juste,
c'était polygonal. C'est juste pour ça.
Non,
maintenant, c'est réaliste.
Non,
c'est...
C'était du marbre, des belles lumières.
Non, mais
de
quand
la fumée,
tu descends
etc.,
la cuisine en bas dans
là,
Manor Spencer,
est... genre, il y a des champignons.
Ouais,
des
mais
ah, bah, là, c'est l'ambiance.
Tu bouffes des organes.
Ah, mais c'est l'ambiance qui veut ça.
Mais dans Resident 1 aussi. Et ça vraiment c'est une réalité quand tu lisais les documents sur les mecs qui se bouffaient entre eux, l'histoire
ouais,
de Lisa
ça,
Trevor
ouais.
Quand tu descends
Jack
dans la cuisine,
est venu me voir,
tu trouves
sale
des
tête,
trucs
je l'ai mangé, délicieux.
Mais mais c'est exactement ça. Voilà. Et donc
mais
ça
dire,
existait
on va dire,
sauf qu'on s'en rendait
on va
moins
dire
compte.
Le gore perçu.
Voilà.
La perception.
Parce qu'ils étaient limités par la technique.
Mais oui.
Donc, parce que quand tu croises le liqueur et que tu le croises et que t'es un peu faible et qu'il te met un coup de patte et que t'as la tête
oui.
qui dégage comme ça.
Voilà.
Ah, si t'avais eu les moyens à l'époque,
t'aurais
combattu avec tes boyaux même, je pense, s'ils avaient vu à l'époque.
Mais c'est toute mon interrogation justement de l'ultra réalisme dans le jeu vidéo. Et que je pose même à Resident Evil. Là pour moi, on commence. Enfin, si demain. C'est photoréaliste où un jour on me demande d'égorger des gens, etc., ou de les planter.
Tout ce que t'as fait dans celui-là.
Oui, mais par exemple, je sais pas si j'y arriverai, tu vois.
Ouais, mais là,
parce
c'est un jeu d'horreur. Il faut bien garder à l'esprit que t'attaques
des méchants, t'es pas allé attaquer
bien
des
sûr,
civils.
C'est, il faut garder à l'esprit que c'est un genre bien particulier et qui implique certaines choses. Avant, il pouvait pas parce que la technique ne le permettait pas, mais là, maintenant, c'est vrai que là, tu peux passer un cap dans le dégueulasse. Et si tu regardes certains films d'horreur gore.
Ah, oui, mais moi, je regarde pas ça.
Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui vont dans le cinéma qui vont. Très 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 loin et depuis très longtemps. Et là maintenant, Resident Evil, c'est une série d'horreur qui a toujours été gore et qui a toujours été un peu trash. Et donc là, il profite de la technique. Et justement, comme maintenant t'es en vue à la première personne, pour que l'effet soit encore plus saisissant, ils sont forcément obligés d'aller plus loin.
Oui, parce que
loin.
Tu te le prends en pleine figure, quoi. Alors qu'avant, on le voyait à travers les yeux d'une
caméra
qui était
en haut de la pièce.
Voilà, c'était Jill ou Chris.
Puisqu'on évoque la technique, on peut quand
réalisation,
même dire, parce qu'en plus, on avait tenue. Des petites interrogations,
oui,
des petits doutes avec les premières démos, ça aliasait pas mal, machin. C'est très réussi.
Ah, c'est beau.
Vraiment,
c'est
il y a vraiment des passages, voilà, il y a des passages, je trouve, vraiment photoréalistes, où tu fais... Ah, tiens, mais même au tout début du jeu, la première fois où t'as la bagnole entre les mains, tu sais, à un moment j'ai fait ah, c'est à moi de jouer, ah ouais, putain, bien joué.
Oui, mais
c'est
après une séquence qui est alors je sais pas si c'est sous un moteur ou si c'est carrément de la vidéo, parce que c'est vraiment saisissant quand tu t'arrives au-dessus de la Louisiane, comme ça, avec une espèce de vue à la Shining.
C'est l'image de synthèse.
Au tout début,
ah ouais, mais c'est
magnifique.
C'est lié à la nouvelle technique de Capcom. Ils accentuent vachement pour les comédiens, par exemple, le scan des visages, etc. C'est...
Ouais, ça veut dire que les mecs, en fait, on l'avait vu dans The Order, et il y a de plus en plus de jeux qui le font, et là, ils l'ont fait. C'est une technologie qui qui permettent de photographier, de scanner vraiment le grain de texture et surtout la manière dont la lumière se réfléchit sur chaque texture. Et c'est ce qu'ils ont expliqué. Par exemple, pour faire les comédiens, ils les ont pas juste scannés, ils ont dû les mettre en costume. Ils les ont maquillés comme un maquillage de cinéma, exactement comme ils sont dans le jeu. Et en fait, ils disent, après, une fois que c'est scanné, on gagne du temps. Mais par contre, avant, on en perd parce qu'il faut vraiment qu'ils soient totalement comme ils seront dans le jeu. Et tu peux pas tricher parce qu'après, en gros, ils changent pas la colorimétrie. Hein. Ils boostent pas un peu de ci, un peu de ça. Non, non, c'est comme c'est. Donc, texture de bois, pareil, roche, pareil, etc. Et ce qui donne une image extrêmement réaliste, soigné, avec des lumières qui pètent pas forcément ou qui éclairent les bonnes zones. Et en HDR, c'est très réussi.
Ah oui, le HDR est très très bien réussi au niveau des contrastes et tout. Et c'est vrai que les lumières, c'est quelque chose de qui est incroyable, quoi. On en parlait tout à l'heure, que ce soit un couloir, que ce soit une descente d'escalier, à chaque fois t'as la lumière qui est exactement comme elle devrait être, et t'as des variations surtout au niveau des couleurs. On peut le voir d'ailleurs, hein, là, pour cette phase là en particulier. Ouais. C'est vraiment ça varie complètement
en
fonction des endroits.
Tiens, cette fameuse scène à la
C'est assez bluffant là pour ce côté-là, en tout cas la réal, sauf en VR où ça devient un poil plus
un petit peu plus aliasé.
Défauts de la VR,
mais ça reste
une résolution inférieure, c'est sûr.
Mais ce que tu perds en qualité graphique, tu le gagnes en immersion
sacrément, ouais.
et en plus, quand tu te rapproches des textures, tu te rends compte que ça reste étonnamment propre. Moi en VR, je me suis rapproché des tableaux, des tapisseries, des murs, et vraiment c'est propre.
Alors sur PS4, j'ajoute juste en 1.0, moi j'ai eu droit à des textures PS2 hein, par moment,
mais
1.0.1 ça a dû être résolu.
Qui met quelques temps à s'affiner,
mais beaucoup, genre beaucoup.
D'accord.
Voilà, mais c'était en 1.0, ça a changé.
Oui, voilà, on a dû jouer déconnecté, sans patch, sans rien, donc peut-être que ça a été arrangé.
Mais Poufi nous confirmerait que sur PC c'est somptueux, donc je pense que mais pas de problème.
Il y a, je parle lentement parce que j'essaie de retrouver mon idée, il y a la VR, au-delà de l'immersion, elle t'apporte un truc que je trouve incroyable. Par exemple, dans la séquence de la lanterne, alors c'est celle où c'est un peu infiltration, quand tu joues en mode classique, tu peux être debout ou accroupi. Et puis donc, il y a notre amie Marguerite là, qui avance avec sa lanterne, machin. Donc, t'es caché derrière, on va dire, une porte ou une fenêtre avec
une petite caisse en bois.
Avec des planches, tu vois, qui ont été mises de manière un peu pour cacher la fenêtre. Et donc, en gros, si tu veux regarder à travers, c'est pas à la bonne hauteur, en gros tu vois pas, ou tu te recules un peu, t'essayes de voir. Mais en VR, toi-même, tu te penches un peu, tu regardes, tu jettes un coup d'œil derrière.
T'as un avantage par rapport à...
T'as un mouvement qui est totalement humain, c'est-à-dire que tu places ta tête et tes yeux exactement comme tu l'entends, et ça te laisse beaucoup plus de liberté que le jeu classique, c'est debout, accroupi, en arrière, en avant, ou à droite ou à gauche.
Il n'y a pas de possibilité de se pencher.
Voilà,
de pencher
en plus, il n'y a pas la possibilité de se pencher, alors qu'en VR, tu fais ce que tu veux. Et du coup, t'es vraiment dedans. Et moi, je me rappelle, je me blottissais, mais je devenais une sous-merde, quoi. C'est-à-dire, je remplissais plus que 30 cm cubes de mon corps, quoi. Tellement je me tassais, quoi.
En fait,
histoire d'être sûr de prendre le moins de place possible.
En réalité,
et tu joues plus lentement.
Tu joues plus lentement parce que t'as plus peur, la peur est plus réelle, donc t'y vas à tâtons.
Moi, j'ai envie qu'elle te chope.
Et c'est très intense comme expérience, et c'est très physique en fait, parce que tu le vis, et même les phases de combat, c'est beaucoup plus difficile pour éviter, pour se retourner, enfin tu le vis physiquement, donc c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus physique. Ça, il faut le savoir, faut vraiment le prendre au sérieux, ceux qui veulent se jeter dans l'aventure en réalité virtuelle. Déjà, consulter un médecin. Histoire d'être sûr. Et puis voilà, moi je conseille de commencer en classique pour savoir un peu où tu fous les pieds, mais vraiment en réalité
où tu fous
virtuelle,
les mains surtout, je dirais.
Où tu
mais
fous
c'est
les mains,
une autre histoire.
C'est pas faux. Ou les yeux.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est vraiment intense en réalité virtuelle, ça fait très peur. C'est pas à prendre à la légère.
Et tu vois, la plus grosse peur de l'histoire du jeu vidéo.
On est d'accord.
Même quand tu y joues pas en réalité virtuelle, ce système de. Il faut se mettre accroupi pour essayer de regarder entre deux planches, dans l'ouverture de la porte, etc. Déjà, rien que à la manette, c'est bien foutu. Par exemple, quand t'es poursuivi par Marguerite, justement, je me rappelle m'être mis accroupi à l'extérieur, enfin sur le porche de la maison, et de regarder dans la fenêtre cassée ou entre les volets cassés, t'es essayé de caler mon regard pile dans le trou pour réussir à voir où elle était. Et même à la manette, c'était déjà réussi. Alors évidemment, en réalité virtuelle, où la manette, c'est ta tête, là, c'est bien plus important.
Bon, on a à peu près tout résumé. Hein. C'était un beau jeu. C'était un jeu qui fait totalement honneur à la série, en tout cas aux origines de la série Resident Evil. C'est un jeu qui fonctionne parfaitement, qui a une bonne durée de vie, hein. Une petite douzaine d'heures en normal, en ce qui me concerne. Je crois que c'est une dizaine d'heures pour vous en facile, les flippettes.
11h30.
11h30
Ouais, 11h30.
Donc, moi, j'ai mis 10h30 en facile, ouais. Mais j'ai, en facile. Je précise bah là, que je suis en survie, ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas fait un jeu en facile. J'ai fait en facile parce qu'il fallait que je fasse vite.
Non mais et quoi
donc, c'est
non,
un
mais,
choix.
Et...
C'est un choix mais que j'ai vite fait. Ouais,
mais pour moi,
conscience professionnelle.
Non mais pour moi, de toute façon, ce genre de jeu et je le dis, ce genre de jeu, j'ai pas envie de les faire en difficile. J'ai envie de kiffer. Ce
mais
sont des jeux d'ambiance, donc j'ai envie d'être dans le.
Mais t'as, mais
voilà,
t'as parfaitement le droit de vouloir avoir plein de munitions
voilà.
sur toi et plein d'air pour être peinard
hein,
et pas flipper, alors
exactement.
Que moi je suis en normal et j'en chie. Hein, t'as parfaitement le droit, Carole.
Tout à fait.
Je pense
tout
que
va
si
bien.
On le fait intégralement la première fois.
Non, survie,
en VR,
c'est super dur.
Ça doit être beaucoup plus long parce que je.
Enfin, ah bah toi si tu te
sauf si on est vraiment un kamikaze mais
si tu te mets en position fétale à chaque fois c'est 25 heures hein,
t'es beaucoup plus hésitant
ouais. Mais moi déjà je sais que je vais finir en plus de temps que vous parce que moi j'en suis déjà à plus de 10 heures de jeu etc parce que j'avance super lentement quoi je regarde, et puis en plus j'avance lentement parce que j'ai peur mais aussi parce que vraiment c'est ma manière de jouer
tu
sais, je regarde tout je relis les trucs
c'est ta façon d'aimer
j'avance machin je suis très ce genre de jeu moi ce qui me fait kiffer enfin j'ai un deuxième kiff c'est vraiment le l'observation, la contemplation, quoi. Et je regarde un peu les, la brume aller au loin dehors.
Alors t'imagines Rebirth en VR.
Mais j'allais y venir. Bah,
tu m'as vu à la rédac. Hein,
tu m'as fait, tu m'as tout
quand
cassé.
T'as fait, quand t'as découvert le truc, t'as fait la news. Ouais. En fait, je l'avais pas vu. Puis je la vois passer, je fais. Donc je lis la news sur Gameblog.
Mais voilà.
Je fais, qu'est-ce que c'est que ça ouais. Je regarde le truc, je fais. Mais attends. Déjà, un, il faut qu'on le mette en une. Deux, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On arrête tout. Waouh, waouh, waouh. C'est extraordinaire. Ah ouais. C'est fantastique. Ouais. Capcom. Je ne peux pas croire que ce soit pas votre plan avec Resident Evil 2 Remade.
Ouais, c'était à ça que je voulais en venir.
Mais si c'est pas le cas, arrêtez tout, stoppez les rotatives.
Je pense,
ce gars-là, déjà, embauchez-le et ensuite faites comme ça. Et je pense que ça vous permet de tout faire. Si vous faites Resident Evil 2 en 3D et non pas à la Rebirth avec de la 2D précalculée qui était magnifique, mais enfin, il vient de prouver qu'on pouvait faire pareil. En 3D, vous pouvez dire 1. Refaites le jeu en 3D, ah, c'est très très beau. 2. Refaites-le à la première personne, ah, encore plus d'immersion. 3, et jouez-y en VR. 3 jeux en 1, et revendez-le full prize. T'inquiète, on sera là. Parce que vraiment, mais moi, là pour moi, c'est totalement nouveau. Là, j'accepterais qu'on me le revende plein pot.
Et tu imagines,
ça apporte quelque chose de fou.
Et vous imaginez que Resident Evil 2, du coup,
bah, il pourrait être comme ça.
Le remake peut être comme
il
ça.
Il pourrait être comme ça.
C'est ce que je
veux dire. Mais voilà, des deux manières, mais en vue subjective. Ah ben moi, le 2, j'espère qu'on va avoir.
Il peut ressortir le 1. Il peut ressortir le 3. T'imagines Nemesis
en réalité virtuelle. Dans peu de temps, mais c'est vrai que ça change tout.
Le scénario B de Resident Evil 2, il y avait les deux, il y avait les deux disques, et quand t'avais le scénario 1A et 1B et 2A et 2B, et quand tu faisais le scénario B, t'avais Mister X qui était l'ancêtre du Nemesis,
qui
lui aussi
quoi,
passait au travers des murs, etc. Donc rien que dans Resident Evil 2, s'ils font ça en VR, tu peux avoir des moments de flip mais intense.
Ils trouvent Code Veronica après, ils trouvent
Resident Evil 6.
Mais non, mais même le
4 en VR.
Même le 4
en VR.
Ah, le 4 en VR dans la maison avec tous les villageois qui est agressé.
Excusez-moi, mais regardez.
Bah, c'est bien, pour nos auditeurs, ça va être compliqué.
Oui, c'est une bonne manière de passer la merde. Mais regarde ça. Moi, honnêtement, je pensais pas qu'on pouvait aujourd'hui refaire
le Manoir Spencer de cette façon
avec bah, de manière
c'est le vrai
similaire
jeu, quoi. On dirait le vrai jeu enfin on dirait le
ce qui pour moi
on,
mais
pour moi
on l'a refait
pour moi,
il y a quoi,
c'est Capcom qui a fait ça quoi c'est pas
c'est...
juste un fan quoi.
Ah bah ouais,
le mec est trop fort quoi ça donne tellement envie quoi ça donne
c'est
tellement
magnifique.
Envie et on en a tous rêvé.
Attendez, arrêtez de parler en même temps.
Un petit vignettage tu vois parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu trop clair là si je veux chipoter un petit peu de vignettage des couleurs un petit peu plus sombres et tout il te redispose les ennemis un petit peu différemment pour que
là,
les
c'est
fans,
une ébauche hein, vraiment
voilà,
oui,
que
oui.
Les fans ils
mais
soient
c'est déjà
payés,
beaucoup
voilà.
Une ébauche
mais tout de suite je signe tout de suite
bah, Lisa Trevor
c'est...
en billard
peut-être Lisa que c'est prévu
Trevor.
Putain mais j'espère
non, mais
tellement je me dis qu'en plus en dev, de dev alors il faut pondre de l'asset à gogo hein, parce qu'il y a quand même voilà
ouais, mais avec revanche, ce qu'ils ont eu avec Resident Evil 7 ils ont déjà des
t'as
des
plus à écrire un scénar parce que tu l'as déjà
non,
t'as
ah
plus
bah
à
oui,
ça. Tu connais toutes tes pièces machin tu peux faire de la sous-traitance faites-le je vous
supplie d'ailleurs Romain je sais pas enfin toi aussi plus moi je sais pas ce que t'en penses moi Marguerite m'a un peu fait penser à Lisa Trevor à un certain moment. Je sais pas si vous voyez ce que
pas
je veux dire.
Non, je crois pas que j'ai tilté.
Peut-être, bah, je me rappelle avoir pensé à Lisa Trevor par moment. Oui, c'est.
Je pense
c'est
jamais
possible.
À Lisa
non,
Trevor.
Non, mais tu l'as fait, Julien.
Je pense qu'à faire mon perso, mais c'est.
Tu l'as fait.
Non, c'est bon,
tu
c'est bon, Julien.
Tu l'as fait, on a
oui,
rien.
Tu bah, oui, mais. C'est...
Mais tu l'as fait.
Oui, mais t'as... Bah, très bien, mais je peux pas imaginer des
bon,
choses, tu vois.
Bref, enfin, bon, ouais. Tout ça pour dire qu'effectivement, s'ils peuvent nous faire un rebirth en réalité virtuelle ou un 2 comme ça, pareil, en vue subjective, avec la qualité, enfin, avec les, comment dire, le confort technologique qu'on a aujourd'hui.
Et tardez pas trop pour le 8 non plus.
Et tardez pas trop. Bah oui, parce que nous, maintenant, on a envie de continuer, quoi. Donc, on l'a tellement attendu, ce Resident Evil 7. Ça paraît, maintenant, ça paraît fou, quoi, cette attente jusqu'au 8.
Ce qui est fou, finalement, surtout, c'est qu'on l'a pas attendu si longtemps que ça, puisqu'il a été annoncé.
Ça fait 4 ans.
Oui, mais bon,
il a été annoncé
quand même.
Ouais, officiellement.
Ouais, mais quand même, ça fait long. Tu sais, quand t'es fan, quand même. Ouais. Quand t'es fan.
Enfin, c'est réussi. Et
c'est tellement réussi qu'on pense déjà à ce que pourrait faire Capcom par la suite. Alors, justement, avec toutes les idées qu'ils ont. Et qu'ils ont établi pour ce Resident Evil 7 qui mine de rien donc du coup constitue une étape très importante.
Je te dis, pour moi il y a le 1, il y a le 4, il y a le 7 maintenant.
Voilà. Capcom ils sont souvent critiqués pour le à juste titre d'ailleurs pour leur recyclage. Là la réussite de ce Resident Evil 7, c'est ça leur donne une carte blanche en matière de recyclage qui est assez dingo. Et cela dit en passant, il faut vraiment les féliciter pour la prise de risque parce que quand tu as les actionnaires sur le dos, que tu as une licence aussi clé pour eux que Resident Evil, qui est vraiment un moteur pour Capcom financièrement, tenter quelque chose comme ça, fallait le faire et bon. grand bien leur en a pris.
Tout ce que j'espère, c'est qu'il arrivera à se vendre plus que le 6 et le 5, ce qui serait quand même lui rendre justice. Bah, maintenant,
ça a très bien, en vrai, quand je pense que c'est possible. Ça a très bien marché. Ouais. Hein, le
5 a très bien marché.
Mais je sais, justement, c'est pour ça que
le 6 moins, mais le 5 a cartonné.
Bah oui, mais il y a des erreurs à réparer, c'est bien ce que je dis. C'est pour ça qu'il faut réussir à battre le 5.
Après, la période n'est pas la même, etc.
Mais je pense que le 7 marchera mieux que le 6. Et je pense aussi que, contrairement au 6, le 7 va bénéficier d'un très bon bouche à oreille. Et ça,
il a été hyper bien. Presse, ça
alors,
joue voilà.
Et je super pense que... bouche à oreille, mais, hey, mais faut, si, les gens qui ont envie de faire payer à Resident Evil le fait que le 6 leur a pas plu, non, faut y penser aussi.
Mais non, justement,
mais là, c'est
des jeux sans... ceux qui n'ont pas aimé le 6, c'est les vrais fans de la série.
Mais là, on les excuse, justement.
Des jeux sanctions, des jeux qui ont été sanctionnés, on en a connu. Dans la saga Assassin's Creed, on en a connu, qui ont été sanctionnés parce que le précédent leur avait pas plu.
Il a été trop bien reçu.
Mais là, il était pas terrible.
Oui, mais le 6 était pas terrible non plus.
Oui, non mais je veux dire, plus souvent celui qui s'est fait sanctionner, Assassin's Creed, il était pas terrible.
Là, ça n'a rien à voir.
Là, c'est bien.
Ouais.
C'est ceux qui n'ont pas aimé le 6, c'est des gens comme nous, hein.
Oui, mais moi, je c'est un plaisir coupable.
Bien sûr qu'il fait.
Ce sont les vrais fans qui n'ont pas aimé le 6.
Je n'achèterai pas ton jeu Capcom qui est parce que ton jeu est bon et j'ai pas envie qu'il soit le suivant soit encore meilleur.
D'ailleurs, dans le sondage,
tu payes le prix pendant des années de ce que
t'as fait. Sur Resident Evil, le 6, je sais pas, il a récolté très peu. 1%.
Ah oui, on a les résultats des sondages.
C'est normal.
Ah bah attends, on a résultat du sondage.
C'est probablement le plus mauvais des 6.
Le 1, le 2 et le 4 qui ont été le.
Mais tu vois, ce qui serait intéressant, c'est d'ici 6 mois, ou peut-être même moins, refaire le même sondage, mais en mettant le 7 parmi les choix.
Complètement. Moi, j'aurais mis les révélations aussi, même.
Parce que, ouais, bah parce que je pense que le 7 risque a de fortes chances de tomber dans les hautes places du classement des fans de Resident Evil.
Et je pense qu'il va aussi bénéficier du fait que beaucoup de personnes, et a priori, il y en a une. Bon millions à travers le monde ont acheté le PlayStation VR et ils veulent donner à manger à leur PlayStation VR.
Mmh. Alors, premier vrai gros jeu.
Effectivement, bon, c'est pas pour tout le monde comme expérience, mais quand même, ne serait-ce que par curiosité, ils vont entendre, et à raison, hein, essayez-le et vous verrez que putain, là ils ont de quoi faire un truc assez ouf et ils vont peut-être y aller, quoi.
Alors, c'est quel le jeu préféré de nos lecteurs du coup?
Ça, c'est le genre de jeu que tu peux faire essayer à tes amis pour leur faire tester la réalité.
C'est le genre de jeu que tu peux faire essayer à tes enfants,
leur donner envie de vomir.
Non, ou c'est mamie ou papy traîne un peu, tu les fais jouer.
Voilà, puis là ça ira très vite pour l'héritage.
0% des votes,
ouais.
Resident Evil 6.
Il est pourri, Resident Evil
avec
6.
Avec 1% des votes. Ils sont deux à avoir 1%. Resident Evil 5.
Oh, bah alors.
Et Resident Evil 0.
Bon.
Mais moi, j'adore
avec
le 0, par contre.
8% des votes. Resident Evil 3, Nemesis.
Quelle honte. Seulement.
Ah oui, mais il faut bien choisir.
Alors qu'il est tellement
seulement.
Bon.
Oui,
tellement
mais si t'en avais un à choisir, je suis sûr que
c'est celui-ci.
Pour lui.
Si.
J'ai voté pour lui. 8%.
C'est mon préféré.
Il est super.
C'est le meilleur.
Mais c'est peut-être pas le meilleur.
Si.
14% des votes. Code Veronica. 21% des votes. Resident Evil 2. Et 31% des votes, le premier. Voilà.
T'as pas dit le 4? Il est où le 4?
J'ai pas dit 20% des votes.
20% des votes.
Ce qui fait que le top 3, c'est
top 3.
Resident 4, Resident 2, Resident 1. Et je pense que si on avait fait la séparation entre
le
Resident 1 et
Rebirth,
Rebirth aurait récupéré 90% des votes.
Je pense que les deux sont...
sublimé.
les deux sont compris et que tout le monde a compris.
Moi, ce sont mes deux préférés, mais si tu les sépares, je vote quand même pour le tout premier.
Je préfère
le
boss,
choc de l'époque.
Pour le coup que tu prends dans la tronche quand tu joues en 87.
Pour les toutous qui passent par la fenêtre.
Mais quand même, le Rebirth a réussi le tour de force à sublimer un jeu déjà incroyable. Un vrai remake, parce que du coup, on avait un pan de scénario qui s'ajoutait. C'était pas juste on vous refait le jeu et c'est le même, avec des morceaux de manoir qui étaient ajoutés. L'histoire de Lisa Trevor, elle est fantastique. C'était beau, mais à se damner.
Non, mais encore aujourd'hui, c'est beau, quoi.
Encore aujourd'hui, de toute façon, c'est beau.
Donc, 10 ans après, quoi.
De toute façon, je pense que Rebirth, c'est le meilleur remake de jeu vidéo jamais fait jusqu'à présent.
Un monument.
Agree.
Non, mais on t'aime, Resident.
Et le jour où il va ressortir en VR, ce sera la meilleure expérience VR.
Regarde les lumières, des orages, blague et à part tout, quand même, les éclairs. Voilà.
Pour moi,
pourquoi t'as remis ça, Poufi ?
Le dining room n'a pas d'équivalent, quoi. Quand tu rentres là, alors, en VR comme ça, il y a une telle qualité d'ambiance. Attends, je veux juste qu'on vive ce moment-là. Ils vont ouvrir la porte. Là, regarde.
Voilà. Oh, il est horrible.
Super.
Ça, c'est Let me take care of it.
Non, mais regarde ça.
Ça, c'est fantastique.
T'as pas envie d'y
être. Fantastique.
Non, mais là, pour moi, c'est un parc d'attractions, quoi. C'est un fantasme absolu.
Il faut le faire. Faites un parc d'attractions, Manor Spencer.
Bah, t'as plus besoin.
C'est trop bien, on veut y aller.
T'as plus besoin. Tu fais
mais
ça,
oui,
c'est
on
fini.
Veut y aller.
Ça a été fait au Japon,
mais oui, mais c'est pas pareil. On veut y aller en
France. T'es dans Resident Evil, t'imagines ? T'es dans Resident Evil.
On veut aller.
Où ça ?
Dans le manoir Spencer.
Pourquoi tu prends cette voix bizarre, Carole ?
Parce qu'on va aller, parce que fait le bébé.
Bah, aller à Disneyland déjà pour commencer.
Ah oui.
Ah bah nous on y va souvent.
Ouais, je sais.
En plus,
vous
on
pouvez
a
nous
notre
y
carte.
Prendre fréquemment.
Je suis au courant. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur Resident Evil 7, sur tout ce que l'avenir peut nous réserver pour Resident Evil. On est assez d'accord sur le fait que ça y est, Capcom a redressé la barre.
Resident
Ils sont
Evil is back.
Revenu sur le devant de la scène de fort belle façon avec sur Resident Evil 7.
Et là il fait un beat tous... pas possible. Le public accroche pas du tout.
Là honnêtement j'aimerais pas parce que
j'ai
ça
que des bons échos là. Franchement de ce que je vois passer sur Twitter, les réseaux, tout ça, je vois
les critiques à part le gars. Le Guardian ou le Times, je sais plus.
Les journalistes ont très bien reçu.
Cinq.
C'est cool. Ils n'ont rien compris.
Objectivement,
il mérite
oui,
pas 5.
Oui, mais tu sais,
pourquoi pas.
Je suis le premier à dire la subjectivité, machin. Il y a un moment quand même. Enfin, je veux dire, fondamentalement, qu'est-ce que tu peux lui reprocher ?
Bah, je l'ai pas lu le rapport.
Voilà, faut lire. Savoir.
Mais faut connaître. Faut aimer Resident Evil. Faut aimer Resident Evil.
Non, mais je veux dire, c'est un jeu d'horreur.
Même si tu le juges
en termes de jeu d'horreur,
le
truc fait méga peur.
Voilà.
Le
il
mec
le
il déteste les jeux d'horreur, il a toujours détesté Resident Evil.
C'est comme si un mec qui aime pas le foot, tu lui donnes à tester un jeu de foot, il va peut-être te dire que c'est pas terrible si tu veux. Mais
il fait tellement le job en termes de pur survival horror.
Mais là encore, on n'a pas lu l'article.
Oui, on n'a rien lu, donc on n'en sait rien. Ça se trouve, le mec a des arguments totalement solides et qui se valent.
On va les lire.
Voilà, exactement. Et ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on
a le droit aussi de dire qu'il y a des gens qui se trompent.
Aussi, oui.
Il y a des coups partout.
On n'en sait rien si c'est trompé ou pas. Tout ça pour dire que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clore complètement ce podcast. N'hésitez pas, évidemment, si vous êtes d'accord avec nous ou pas, à aller donner votre avis dans les commentaires. Il y a aussi un petit sondage qu'on a posté. Oh non, un grand sondage, pardon. Il faut que je perde cette habitude. Sinon, je vais me faire. À chaque fois,
pas
je vais
petit,
me faire rattraper.
C'est bien, j'ai
il
même plus besoin de le dire.
Un sondage, donc, pour savoir la note que vous voulez mettre à Resident Evil 7. Resident Evil 7 Biohazard, parce qu'on le dit, on l'a pas dit une seule fois,
Biohazard.
Mais c'est son nom, son titre complet. C'est Resident Evil 7.
Même le titre est bon.
Sur Resident Evil 7.
Biohazard.
Voilà,
je vais peut-être dire une bêtise, mais.
C'est le premier.
Non, c'est le premier qui réunit les deux.
Non, mais c'est pas ça que j'allais dire.
D'accord.
C'est le jeu, visiblement, a une meilleure longévité que le groupe. Parce que s'ils ne pouvaient pas dire Biohazard, c'est qu'il y avait un groupe américain.
Ou alors, ils ont fait un deal.
Oui, voilà.
Mais vous avez entendu parler du groupe Biohazard dernièrement ?
Non.
Moi, j'ai entendu parler de ce.
Je dis une bêtise.
La première fois que j'ai entendu parler de ce groupe, c'est quand j'ai découvert pourquoi Resident Evil n'avait pas le même nom au Japon et en Occident. Je crois que j'ai jamais écouté un seul de leurs morceaux.
Pareil.
Je connais pas non plus, donc. Enfin, je connais pas leur musique.
Un truc qui m'a tout petit peu déçu, peut-être. Mm-hmm. Alors, vraiment, là.
Mais tu le dis maintenant.
Oui.
Ok.
C'est. J'en ai dit quelques-uns. C'est qu'il y a. Quand t'as le titre,
il n'y a pas
Resident
Evil. Oui, on en parlait juste avant.
C'est tout peut-être,
on l'attendait.
Ça fait partie de l'ADN, tu vois.
C'était la rupture qui
est justement. C'est comme ne pas avoir le Star Wars dit par
Jack. Jack ou Marguerite.
Oui, voilà, au moins d'avoir le petit truc.
C'est Resident Evil, motherfucker.
Resident Evil 7, tu vois.
Ça n'aurait pas bien sonné. Ce qui sonne bien par contre, c'est le fait qu'on va vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, évidemment, pour un autre podcast. Merci Romain, merci Carole,
merci
Julien, merci Poufi à la solo, merci à vous encore une fois. N'oubliez pas, comme je vous ai dit déjà juste avant, hop, les commentaires juste en dessous, vous avez des avis, donnez-les-nous.
Donnez.
Et puis on viendra discuter avec vous si vous êtes d'accord avec nous ou pas,
ouais.
Notamment sur ce qu'on pense de ce Resident Evil 7, voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout...
Jouez bien.
Jouez bien.
Ciao.